Bonsoir. Donc le passage de ce soir, c'est dans les Actes, chapitre 11, des versets 19 à 30, c'est page 1075 des Bibles. Donc Actes, chapitre 11, versets 19 à 30. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la détresse survenue au sujet d'Étienne passèrent donc en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils ne disaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux gens de langue grecque et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et on envoya Barnabé en lui demandant de passer à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il se réjouit et il les encouragea tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur résolu, car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule importante se joignit au Seigneur. Il partit ensuite chercher Saul à Tarse. Après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent au rassemblement de l'Église et instruisirent une foule importante. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabos, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre habitée. Elle eut lieu, en effet, sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils l'envoyèrent aux anciens par l'entremise de Barnabé et de Saul.
Bonsoir à tous. On réalise que généralement, dans chaque religion, il y a un peu un endroit qui représente le cœur de cette religion, un lieu, une région, ça peut être aussi un pays. Et je vous pose la question, si vous vouliez vous rendre dans un endroit qui est un peu le cœur de l'islam, vous iriez naturellement à quel endroit ? La Mecque, probablement, oui, ou généralement au Moyen-Orient. Si vous vouliez vous rendre dans un endroit qui est le cœur de l'hindouisme, vous désiriez probablement en Inde. Idem pour le bouddhisme, à moins que vous vouliez vous intéresser au bouddhisme tibétain. Mais si vous deviez chercher l'endroit qui est un peu le cœur du christianisme, vous iriez où ? Vatican, à Rome ? Ou alors Jérusalem, où tout a commencé ? À la RDS ? Bonne réponse, à la RDS. En fait, le texte que l'on vient de lire a quelque chose d'intéressant à nous dire à ce sujet. On est dans une série où on traverse le livre des Actes, et on voit justement qu'il y a un déplacement géographique. On se souvient qu'on a commencé à Jérusalem, mais ici, le texte d'aujourd'hui montre que le centre de gravité est en train de bouger. On se trouve à Antioche, et c'est à Antioche que se vit un tournant majeur dans l'histoire du christianisme. C'est à Antioche que des non-juifs deviennent disciples de Jésus, et en masse, un nombre important. C'est là que pour la première fois, on appelle ces croyants-là des chrétiens. C'est là aussi que les voyages missionnaires de Paul et Barnabé, qui vont atteindre par la suite l'Europe, le continent européen, c'est de là que tout va partir. C'est important à relever alors qu'on peut penser au siècle dernier, au XXe siècle. Beaucoup ont cru à la mort de Dieu, selon l'expression de Nietzsche, la disparition du fait religieux. Et si c'est vrai qu'en Europe, on a eu tout un phénomène de sécularisation, une influence de moins en moins importante du christianisme dans la société en général, il faut relever qu'il y a des constats qu'on fait aujourd'hui. D'une part, on peut dire que même dans les médias, on reconnaît qu'il faut relativiser cette expression. Le fait religieux n'a pas disparu, même en Europe. Mais écoutez la citation d'un certain, ou lisez plutôt, la citation d'un certain Philip Jenkins, historien spécialisé dans l'histoire du christianisme. Pendant le siècle passé, le centre de gravité dans le monde chrétien s'est déplacé inexorablement vers le sud, en Asie, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Par la suite, il cite un auteur kényan, John M. Beatty. Comme il l'a fait remarquer, les centres universels de l'Église ne sont plus à Genève, Rome, Athènes, Paris, Londres, New York, mais à Kinshasa, Buenos Aires, Addis Abeba et Manille. Malgré ce que les Européens ou les Nord-Américains peuvent penser, le christianisme se porte très bien dans l'hémisphère sud, non pas simplement en survivant, mais en grandissant. On a un déplacement du centre de gravité qui est une des particularités du christianisme. Et on y assiste ici. C'était déjà visible dès le départ. Si on commence à Jérusalem, il y a un nouveau centre qui va retenir l'attention. Même si on va retourner à Jérusalem dans le livre des Actes, on voit qu'il y a une part importante. Et ces habitants d'Antioche, ils sont au bénéfice de trois choses dans le texte, je vous le suggère, et ce sera notre plan. Au bénéfice d'une parole, dans les versets 19 à 21, au bénéfice d'un encouragement, au bénéfice d'une opportunité. Et l'expression qui relève tous ces bénéfices, c'est que la main du Seigneur était avec eux. Ils sont comblés et dans le même temps transformés, comme on le verra. Alors en entendant parler d'une foi qui se propage, pour répondre à une question qu'on se pose régulièrement aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas faire preuve d'arrogance que de vouloir communiquer sa foi à des personnes qui ont une foi différente? Est-ce que ce n'est pas faire preuve de condescendance que de prétendre avoir une bonne perspective sur la foi, sur Dieu? Aujourd'hui, c'est mal vu de vouloir communiquer cette foi. On invoque le principe de la tolérance. Il faudrait être tolérant, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant de s'arrêter quelques instants pour essayer de réfléchir au présupposé qu'on a quand on dit cela. Sur quelle base est-ce qu'on avance ces questions? Pourquoi est-ce qu'on prétend que d'affirmer ses convictions, c'est arrogant? Je vous suggère plusieurs présupposés. Un présupposé, ça peut être que toutes les religions mènent au conflit, à des guerres. Donc il faut les éviter. Les religions sont source de conflits dans le monde. Un autre présupposé, c'est peut-être que les religions se valent toutes. Elles sont toutes au même niveau. Ça, c'est un autre présupposé qu'on rencontre régulièrement. Un autre présupposé, c'est qu'on ne peut rien savoir sur la réalité. Ce qui est important, c'est que chacun soit convaincu des éléments qu'il croit. Si ça lui fait du bien, tant mieux. Le relativisme. Mais en ayant ces présupposés à l'esprit, il faut qu'on soit cohérent. Ces présupposés-là sont des convictions. Elles sont des convictions, elles ne se démontrent pas avec un théorème de Pythagore, ou elles ne se démontrent pas par une démonstration scientifique. Non, c'est bien une foi, on croit cela, on a une conviction, et en fait, on est en train de vouloir l'imposer à d'autres. On est en train de vouloir dire aux autres, mais attention, ne communiquez pas votre foi, puisque toutes les religions se valent. Si je dis, vous ne devriez pas aller dire à d'autres ce que vous croyez en tant que chrétien, ce que je suis en train de faire là, c'est justement imposer mon point de vue et demander à l'autre de ne pas faire ce qu'il croit. C'est moi aussi une conviction que j'impose, que j'annonce, et que je veux voir imposer vis-à-vis des autres. C'est faire précisément ce qu'on reproche aux autres. Alors pourquoi ne pas reconnaître qu'on a, c'est vrai, des perspectives différentes, mais qu'il faut qu'on en parle? Et dans notre texte, c'est intéressant de voir que les croyants qui se sont rendus à Antioche, ils avaient aussi l'impression d'être mal vus par, pour d'autres raisons. On l'a vu la dernière fois avec Mario sur le chapitre 10 et le début du chapitre 11 que nous n'avons pas lu, montre que c'était difficile pour des croyants d'origine juive qui avaient cru en Jésus de parler avec des non-juifs. Un gros pas, un pas difficile devait être fait, un pas qui n'était pas facile, qui allait à contre-courant, et pourtant ils ont eu le courage de le faire. Les habitants d'Antioche vont être au bénéfice d'une parole, ça c'est notre première partie, et on voit un lien qui est fait avec une autre partie du livre des Actes qu'on a déjà vu au chapitre 8. Il était question de la dispersion des croyants, et certains ont suivi la côte méditerranéenne au nord, la Phénicie, d'autres se sont rendus à Chypre, mais certains à Antioche, une ville fondée vers 300 avant Jésus-Christ par les Séleucides. Elle était devenue une ville importante. Flavius Joseph, l'historien du 1er siècle, la présente comme la troisième ville de l'Empire romain après Rome et Alexandrie. Une ville d'un demi-million d'habitants, très cosmopolite, un peu comme Paris. Une communauté juive importante s'était déjà implantée là, et là, dès le départ, il semble. Et comme c'était le cas plus tôt, comme on l'a vu dans le livre des Actes, les croyants, ceux qui ont cru en Jésus, vont naturellement parler avec d'autres juifs qui sont là, en le présentant comme le Messie, celui qui devait venir. Et on l'a vu dans le chapitre 8, ce qui sonnait au départ comme une très mauvaise nouvelle de la persécution devient en fait une bonne nouvelle pour d'autres. Et c'est une bonne nouvelle pour ceux à Antioche qui vont pouvoir entendre parler de cette parole, cette bonne nouvelle de Jésus. On a à la fois des traits communs quand on communique l'évangile, des personnes, des croyants d'origine juive qui communiquent avec d'autres juifs, il y a un arrière-plan commun, il y a toute l'appartenance à un peuple, les écritures en commun, tout l'Ancien Testament, la loi, les prophètes, l'attente d'un Messie, il y avait donc cette facilité, quelque chose de tout à fait naturel, et en même temps, on voit les traces d'un pas qui va à la fois être contre nature et aussi naturel. Luc nous fait la description de ce qui va se passer ensuite. Il ne disait la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus en Antioche, parlèrent aux gens de langue grecque et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. En quoi est-ce que ça sonne comme contre nature? Il y a des codes dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle ville, des choses qu'on ne fait pas. Alors vous vous dites peut-être, mais moi j'habite à Paris. À Paris, on peut s'habiller comme on veut, on peut être comme on veut, on peut écouter la musique qu'on veut. Il y a Abdel Selou qui a sorti dernièrement son livre qui est l'occasion de reparler du film Intouchable. Et qu'est-ce qu'il y a de particulièrement drôle avec ce film? C'est que justement, on rencontre deux personnages, si vous l'avez vu, qui viennent de deux mondes différents et qui se retrouvent dans une même situation. Est-ce que ce n'est pas justement ça qui nous fait rire? Deux mondes que tout sépare et pourtant qui se retrouvent avec un qui doit écouter un opéra et qui voit un homme déguisé en arbre qui chante, et un autre qui reconnaît la musique de chambre associée à des bandes sonores qu'il avait dû écouter alors qu'il cherche un travail. Les ascédiques. Mais c'est justement parce que tout les sépare et on ne voit pas facilement quelqu'un de bourgeois parler avec quelqu'un de la cité. Et c'est un peu ce qui se passe ici. C'est un peu le décalage qu'on retrouve ici avec des croyants qui sont d'origine juive, qui se mettent à parler avec des non-juifs. Le pas, on le voit dans le livre des Actes, il était très grand à faire. Et pourtant, ils vont faire ce pas-là, un pas à contre-nature. Et pourtant, comme on l'a dit, ça semble se faire naturellement, comme des conversations qu'ils vont entamer petit à petit, ils vont pouvoir parler de ce qui est au cœur de leur vie, simplement, la personne de Jésus. La question qu'on peut se poser naturellement, mais c'est qui a fait ce pas? Qui est à l'initiative? Est-ce que vous imaginez, par exemple, un concile à Jérusalem où on a débattu de la question? Ou alors vous imaginez l'église d'Antioche qui se retrouve et dans le temps des annonces, comme on l'aura tout à l'heure, Au fait, pensez-y, on va faire un pas particulier cette fois-ci, cette semaine. Non, il n'y a pas les responsables d'une église, il n'y a pas un concile, ce sont des anonymes, des personnes qui ne sont même pas citées de nom. Pas des apôtres, pas des diacres comme Philippe par exemple, ce sont des anonymes. La seule chose qui nous soit dit à leur sujet, c'est qu'ils étaient d'origine de Chypre et de Cyrène. On connaît l'île de Chypre, mais Cyrène, c'est l'équivalent de la Libye actuelle. Ce sont donc des personnes d'origine juive, mais étrangères, qui ont fait ce pas. Et on peut se dire qu'il y a un certain côté naturel aussi, plus facile pour eux que pour des personnes qui ont toujours vécu en Judée, toujours vécu à Jérusalem, de pouvoir parler avec des non-juifs. Et ils franchissent ce pas. Si ça s'est fait avec une personne, l'eunuque éthiopien, dans le chapitre 8, la maison de Corneille, un centurion romain, dans le chapitre 10, ici ce sont des foules importantes qui se tournent vers Jésus. Et l'expression utilisée, c'est « la main du Seigneur était avec eux ». Le fait qu'ils se tournent, que beaucoup de gens se tournent vers Jésus pour découvrir ce message, est attribué à Dieu. Et si on jette un coup d'œil un peu plus loin dans le texte, on remarque quelque chose d'assez intéressant. Ce fut à Antioche, au verset 26, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. N'est-ce pas courant de penser que si on est né à un certain endroit, on va avoir une certaine croyance? Est-ce que vous n'avez pas une telle logique à l'esprit? Si vous êtes né en Angleterre, vous allez probablement être anglican. Si vous êtes né en France, vous êtes peut-être catholique ou alors athée. Si vous êtes né en Afrique du Nord, ben vous allez être musulman. C'était la tendance déjà à l'époque d'identifier un lieu avec une foi. Mais la difficulté devant laquelle les habitants d'Antioche sont placés, c'est qu'on a là des personnes d'arrière-plan juifs qui sont devenus disciples de Jésus et qui communiquent leur foi avec des non-juifs, des Grecs. Et ce sont là des Grecs convertis. Il y a aussi des chrétiens d'origine juive. Et comment est-ce qu'on va les appeler? Je vous ai donné la réponse. On va les appeler chrétiens. Ceux qui appartiennent au Christ, ceux qui le suivent, ceux qui s'identifient à lui. Et quand on pense à ce qui s'est produit ici à Antioche, il y a certains éléments qui peuvent être utiles pour nous, alors qu'on vit ici à Paris. Comme Antioche, on vit dans une ville très cosmopolite, avec proportionnellement une forte densité de personnes qui vivent ici, population très diverse. Imaginez quand les habitants, les croyants à Jérusalem ont vu partir ces disciples de Jésus et ont su qu'ils allaient se rendre à Antioche. Dans leur esprit, il y a peut-être des idées qui se sont forgées. Aïe, pour certains pessimistes, ils se sont peut-être dit « à Antioche, leur foi va s'étouffer ». Ils vont plus croire en Jésus. Confrontés à autant de religions différentes, dans une ville aussi grande, leur foi va s'étouffer comme une petite flamèche. D'autres, plus positifs, se sont peut-être dit, ils vont rejoindre une communauté, ils vont se retrouver avec des gens qui croient en Jésus comme eux, et tout va tourner autour de cette communauté, ils vont vivre exclusivement avec des croyants, et tout va bien se passer pour eux. Eh bien, ce qu'on remarque ici, c'est que c'est ni l'un ni l'autre, ni un communautarisme, ni une foi qui étouffe. C'est une foi bien vivante et qui se vit avec des personnes d'autres cultures, d'autres fois. Plutôt que d'être cloisonnés, ils vont partager leur croyance avec des personnes d'autres origines. Et cette riche diversité qu'on peut vivre dans la ville, on va la retrouver dans le chapitre 13, où il sera question de cette diversité dans l'Église. Et ça doit nous encourager, nous, ici, si on est croyant ici à Paris, de se dire qu'on n'a pas besoin de vivre dans un communautarisme fermé, où on ne côtoie pas, on veut exclusivement des relations avec des chrétiens. Ça doit aussi nous encourager à savoir que, confrontés à toute la diversité, notre foi, elle peut être bien vivante, on peut être témoin dans une ville comme la nôtre. On passe à la deuxième partie, au bénéfice d'un encouragement. Dans diverses situations qu'on a vécues ces derniers mois sur le plan international, on pense à des personnes qu'on veut rechercher pour répondre à un besoin particulier. On pense au FMI, par exemple, où après l'affaire des ISK, il fallait trouver la personne qui allait pouvoir reprendre le poste après un tel scandale. Qui va être la bonne personne? C'était qui? Christine Lagarde. Après, on a un président, on cherche un président, l'homme de la situation en période de crise ici en France. Et qui sait? Je ne donne pas de réponse. On ne va pas lancer la discussion. Mais il y a à chaque fois cette idée qu'on cherche un peu la personne qui va répondre aux besoins du moment. Et ici, les églises à Jérusalem, elles sont confrontées à ce besoin de trouver la personne qu'elles vont envoyer. En entendant parler de ce qui se passe à Antioche, elles voient la nécessité d'envoyer quelqu'un. On l'a déjà vu en Samarie, ils ont envoyé Jean et Pierre, deux apôtres. Mais alors qu'on a à l'esprit le pas qu'ils ont franchi, qui est-ce qu'on veut envoyer? Est-ce que c'est quelqu'un qui va venir avec un regard condescendant et qui va amener comme une douche froide et dire « mais qu'est-ce que vous avez fait là, c'est du n'importe quoi ?» Ou alors, on aura quelqu'un qui va être un encouragement. Barnabé, c'est l'homme de la situation. On a déjà entendu parler de lui dans le livre des Actes, au chapitre 4. On apprend que s'il est juif de la tribu de Lévi, il est aussi originaire de Chypre. C'est intéressant. Ils ont choisi quelqu'un qui venait de Chypre pour aller se rendre à Antioche, alors que ce sont justement des gens de Chypre qui ont les premiers rendu témoignage. On se souvient aussi que Barnabé, ce n'est pas son vrai nom, il s'appelle Joseph au départ. Il a été surnommé Barnabé, fils d'encouragement par les apôtres. Pourquoi? Parce qu'il a, à ce moment-là, donné une forte somme d'argent, il a vendu le champ qu'il possédait, c'était semble-t-il quelqu'un d'aisé, pour en faire bénéficier les pauvres à Jérusalem. Alors vous êtes déjà encouragé quand vous voyez le trésor public qui reconnaît qu'il a fait une erreur dans le calcul de vos impôts. C'est déjà un encouragement. Mais imaginez quelqu'un qui vous donne une forte somme d'argent parce qu'il vous voit ou elle vous voit dans le besoin. C'est encore plus encourageant, n'est-ce pas? Quelqu'un qui se sacrifie pour vous donner de ses biens. Ici, il a déjà montré l'encouragement par le fait de se donner de cette façon à Jérusalem. Mais son surnom, il se vérifie plus tard, alors que Saul est converti, alors qu'il était persécuteur de l'Église. Tous les croyants à Jérusalem refusent de le voir, ils pensent qu'il est encore persécuteur de l'Église. On s'imagine une ruse, il va s'infiltrer et nous vendre. Mais c'est là qu'intervient Barnabé. Il n'a pas peur de se mettre aux côtés d'un outsider comme lui. Et il l'emmène pour le présenter aux croyants de Jérusalem. Il ne s'appelle pas fils d'encouragement pour rien. Et ça se vérifie ici encore. Quelle est la réaction lorsqu'il arrive à Jérusalem? Il est dit à son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il se réjouit. Il les encouragea tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur résolu. Alors c'est peut-être pas toujours le cas, mais quel est votre réflexe quand vous entrez dans une église, et c'était peut-être le cas ce soir? Est-ce que c'est naturellement de voir toutes les causes d'encouragement, de se dire ça c'est super, ça c'est génial, ou alors c'est plutôt de vous dire au niveau de la déco c'est vraiment un mauvais goût, ou alors la musique, on laisse tomber, ils auraient dû faire ça dans un garage, ou c'est pas du tout mon avis à les musiciens, mais j'imagine les scénarios possibles. Et le gars qui parle, il est complètement à côté de ses pompes. Ça serait facile de relever toutes les choses qui sont négatives. Mais remarquez Barnabas, quand il arrive dans un endroit, il se dit où sont les signes de la grâce de Dieu. Et il s'en réjouit. C'est quelqu'un qui a du bagage, c'est quelqu'un qui a toute une vie chrétienne derrière lui. Et pourtant qui sait se réjouir, qui sait voir les beaux aspects de ce que Dieu est en train de faire. Il aurait pu voir toutes les choses à changer, il aurait pu voir la nécessité de progrès, et pourtant il se réjouit de tout cela. Quelqu'un dira, c'est peut-être le signe d'un gars qui est particulièrement optimiste, qui est un peu fleur bleue, qui voit tout en rose. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Qu'est-ce qui les encourage à faire? Est-ce que ça colle avec ce qui est dit de lui? Et il les encourage à tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur résolu. Rester attachés au Seigneur d'un cœur résolu. C'est pas un encouragement qui est tout simplement tout est beau, tout est joli. Il reconnaît qu'il va y avoir des difficultés, il reconnaît qu'ils vont avoir de la peine à rester attachés. Et c'est pour ça qu'il les encourage à tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il voit la grâce de Dieu, il se réjouit, mais il les encourage à rester attachés. Et la raison, elle est donnée au verset suivant, car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule importante se joignit au Seigneur. On sent, quand Luc écrit, qu'il a une réelle admiration pour ce Barnabé. Prenez par exemple l'expression « c'était un homme bon ». C'est la seule fois qu'on le trouve dans le livre des Actes. Rempli d'Esprit Saint et de foi, là c'est ce qui est dit d'Étienne, un homme qu'il a relevé comme étant un homme remarquable. Il voit en lui un formidable encouragement en la personne de Barnabé. Et à la suite, on trouve un constat qui revient à trois reprises dans tout ce passage, c'est qu'une foule importante se joignit au Seigneur. Avec différents termes, on retrouve cette idée que le nombre grandit, et certainement Barnabé y a contribué. Mais la personnalité de Barnabé, elle ressort aussi dans ce qu'il va faire ensuite. Quand il voit cette foule importante, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il dit, à partir de maintenant, je vais avoir une grosse église, je vais construire ma méga church? Et à partir de là, c'est bon, je me suis imposé. Non. Il partit ensuite chercher Saul à Tarse. On a posé la question au départ, quel est l'homme de la situation? Barnabé, c'est cet homme de la situation. Mais ce qu'il y a de remarquable chez Barnabé, c'est que lui-même reconnaît ses limites et il est prêt à donner la place à quelqu'un d'autre qui a d'autres dons. Il a certainement entendu Saul prêcher, Saul qui deviendra l'apôtre Paul. Il l'a entendu prêcher et il connaît son intelligence, sa capacité à comprendre les Écritures et à l'enseigner. Et c'est intéressant quand on compare les deux personnes. Si on essaie de faire un portrait de Saul, on voit qu'on a affaire à quelqu'un de très doué dans l'enseignement. Il n'a pas écrit 13 livres du Nouveau Testament pour rien. C'est aussi un leader remarquable, il va former à tour de bras, il va être le fer de lance de l'évangélisation dans des terres souvent hostiles. C'est un fonceur, en même temps un intellectuel, c'est quelqu'un qui en imposait. Alors si c'est vrai que Barnabé il n'est pas sans connaissance de l'Ancien Testament, il a certainement une capacité d'enseigner. Ce qui est remarquable chez lui, c'est qu'il est prêt à donner la place à quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce qui est frappant chez Barnabé, c'est qu'il voit le potentiel chez quelqu'un d'autre et il est prêt à encourager l'autre à prendre une place primordiale. Il n'a pas peur de faire appel à quelqu'un de très qualifié qui va finalement, petit à petit, prendre le premier plan. Si vous regardez dans ce texte, dans l'ordre, c'est d'abord Barnabé qui est mentionné et ensuite Saul. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Progressivement, c'est Saul qui va prendre la place, l'apôtre Paul par la suite. Et c'est lui qui sera mentionné en premier. C'est lui qui va être celui à l'initiative. N'est-ce pas remarquable de voir ça chez Barnabé? Quelqu'un qui a à cœur de mettre quelqu'un d'autre en évidence. Et on va le voir encore une fois, au moins une fois dans le livre des Actes. Il a cette capacité à encourager et à vouloir que l'autre soit mis en évidence. Moi, personnellement, je trouve qu'il m'encourage de deux façons, Barnabé. Et je vous suggère qu'il peut être un encouragement pour vous. Moi, je pense qu'il m'encourage dans toutes les fois où je réalise que je n'ai pas les dons de quelqu'un d'autre. On côtoie tous des personnes qui ont des dons beaucoup plus importants que nous dans des domaines, que ce soit dans leur capacité relationnelle, dans leur capacité à servir, dans leur patience, dans leur humilité. Dans tout ce qui les caractérise, on voit qu'ils sont beaucoup plus loin que nous. Barnabé est un encouragement pour nous parce qu'il n'a pas peur de laisser la place à quelqu'un d'autre. Il n'a pas peur de, de mettre une autre personne qui a d'autres dons en place. Mais il est aussi un encouragement pour nous lorsque on aurait tendance à regarder de haut quelqu'un d'autre, lorsqu'on aurait tendance à penser que la personne qu'on a en face de nous, elle n'a aucun potentiel, elle ne pourra rien faire de bien pour nous, pour les autres. Barnabé, il a cette faculté de voir du potentiel dans les petits débuts. À Antioche, il n'y a pas des personnes qui ont beaucoup d'ancrage, ce sont des tout nouveaux convertis, et pourtant ils voient la grâce de Dieu, ils s'en réjouissent. Et on va le voir par la suite avec Marc, qu'il va voir, il va voir le potentiel même après un échec. On arrive maintenant à la dernière partie, au bénéfice d'une opportunité. Et dans cette section, on voit des prophètes qui viennent à Jérusalem, de Jérusalem à Antioche plutôt. On n'a pas le temps d'entrer dans l'explication de ce que ces prophètes exerçaient comme ministère. On remarque simplement qu'un certain Agabos va faire une prophétie concernant une famine qui va venir. Elle aura lieu sous l'empereur Claude. On estime, d'après les traces de famine dans l'histoire, que c'était vers 45-46 après Jésus-Christ. Et on lit ensuite ceci, la réaction des gens, des auditeurs à Antioche, c'est quoi ? Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Les chrétiens à Antioche, ils se mobilisent pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Et remarquez pour qui ils le font. Ils le font pour des personnes qui sont à Jérusalem, qui sont loin, mais qui en fait sont venues à leur secours d'une autre façon. Il y a comme une boucle dans le récit. Barnabé était venu de Jérusalem à Antioche, et eux, ils vont pourvoir à leurs besoins. On a une règle un peu de réciprocité qui se retrouve ailleurs dans le Nouveau Testament. Ils vont faire profiter de leurs biens matériels à ceux qui leur ont fait bénéficier de leurs biens spirituels. Mais si ça paraît normal, alors pourquoi parler d'opportunité ? Pourquoi est-ce que j'ai appelé cette section au bénéfice d'une opportunité ? Est-ce qu'on ne devrait pas dire, mais les bénéficiaires, les vrais bénéficiaires, ce sont les croyants à Jérusalem ? Le fait que Barnabas soit au cœur de ce passage, c'est peut-être pas anodin, Barnabé. On peut d'une part se demander si Barnabé n'a pas été un exemple dans ce qui se fait. Souvenez-vous que la première fois qu'on entend parler de lui, c'est quand il vend un champ pour en faire profiter les pauvres à Jérusalem. Est-ce que ce n'est pas déjà par son exemple qu'il a brillé ? Mais ensuite, il faut réaliser que ça ne répond pas à la question « Pourquoi est-ce qu'on parle en termes d'opportunité ?» Il faut reconnaître que même cet acte de générosité, même cette possibilité de donner, le fait de savoir qu'ils vont être dans le besoin, ça c'est une formidable opportunité de faire pareil et d'entrer dans le même cercle vertueux que Barnabé. C'est comme ça que Barnabé s'est fait connaître au départ, c'est comme ça qu'il entre dans cette magnifique aspiration à faire du bien, à encourager. Et l'opportunité qui est donnée aux chrétiens à Antioche, c'est de faire pareil. Alors est-ce qu'on sera prêt, nous, ici à la RDS, à voir des occasions, une personne dans le besoin, une personne qui a besoin d'être encouragée, comme une formidable opportunité, comme un don, comme un cadeau? Ou est-ce qu'on aurait tendance, plus naturellement, à le voir comme une perte, un sacrifice qui nous coûte trop? Et je nous invite à prier pour terminer. Notre Père, nous voulons reconnaître le bienfait de voir ton œuvre, ta grâce, ta main à l'œuvre à Antioche. Et nous aspirons de voir cela ici aussi, à la RDS, parmi nous. Nous aspirons à voir ton œuvre s'accomplir en nous et malgré nos limites. Accorde-nous la joie, Seigneur, de vouloir placer l'autre au centre et d'être prompt à vouloir encourager, prompt à vouloir donner. Accorde-nous cette grâce-là pour la gloire de ton nom.
Amen.
Merci Paul. J'invite les musiciens à revenir. Donc, au cours de cette explication, Paul nous a souligné que dans ce texte, Dieu fait des comparaisons entre Antioche, mais aussi avec toutes les églises, que ce soit ici à Paris ou en France ou partout dans le monde, que chaque église est un centre pour l'appel de Dieu et pour l'évangélisation, qu'on devienne de plus en plus nombreux. Chrétiens, rappelez-vous un jour, quelqu'un vous a mis cette bonne parole dans votre oreille. Vous avez peut-être eu des questions, vous êtes renseigné sur la chose, et avec conviction, vous avez proclamé votre appartenance à Jésus. Ici, il y a peut-être des personnes encore en recherche par rapport à cela. Et je vous encourage à en discuter librement avec les personnes ici pour vous renseigner de plus en plus. Dans l'immédiat, je vous invite tous à vous lever pour chanter une exhortation à tous d'écouter cet appel de Dieu et de le transmettre à tous ceux autour de vous. Je vous invite à rester debout pour une brève parole de bénédiction. qui se retrouve au premier épître aux Thessaloniciens. Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit gardé irréprochable pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est digne de confiance, c'est lui qui le fera. Je vous souhaite un bref moment d'annonce aussi, juste après.
Pas de souci. Vous pouvez peut-être vous asseoir pour les annonces. C'était la première partie, on commence la deuxième. Alors, il n'y a pas beaucoup d'annonces, simplement pour dire qu'à l'issue de cette rencontre, vers 19h55, on va avoir ici le repas du Seigneur pour ceux qui ont envie de participer, qui ont reconnu en Jésus ce Sauveur, ce Seigneur, qu'ils puissent participer à ce repas. N'hésitez pas à venir pour cela. Et puis sinon, tout le monde est convié. Vous n'êtes pas convoqué, vous inquiétez pas. Vous êtes convié à une collation en bas, si vous le voulez, pour échanger davantage. Alors, lundi 19h30, il y a une équipe qui a l'habitude d'aller à la gare Montparnasse pour, justement, en lien avec ce qu'on a vu ce soir, communiquer cette bonne nouvelle. Et si vous avez envie de participer, ou tout simplement de voir comment ça se passe, allez voir Sam qui est là, et puis vous en dira davantage. N'hésitez pas à descendre à l'occasion et lui l'agripper pour lui poser des questions. Et puis jeudi à 19h30, il y a une réunion de prière et d'études. Ce sera sur le livre de la Genèse. Donc vous êtes bienvenus. Et puis il y aura les croyants qui viennent le dimanche matin qui seront aussi présents. Et dimanche prochain, on va entrer dans un rythme régulier de repas tous les 15 jours. Et donc pensez, si vous y pensez à l'avance, ce serait super. Sinon, ce sera possible le jour même de trouver quelque chose d'ouvert dans la rue. Mais on va avoir un repas tiré des sacs dimanche prochain au terme de la rencontre. Eh bien, bon dimanche à tous et à tout à l'heure à la collation.